Le journal Fanny Marceau, bonjour Fanny.
Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Une véritable poussée de fièvre. Les prix des mutuelles flambent littéralement. C'est ce que révèle l'étude annuelle de meilleurtaux.com. Élise Dangean, vous avez pu la consulter en exclusivité pour Europe 1. Et ce qu'on note surtout, c'est que ce sont les seniors qui subissent les plus fortes hausses.
2883 euros, 10 euros de plus que l'an dernier, c'est le montant annuel moyen que doit débourser aujourd'hui un couple de seniors en France pour une mutuelle avec des garanties renforcées. On dépasse même les 3000 euros dans 16 départements, dont la Seine-et-Marne qui a passé la barre symbolique cette année. Des montants jamais atteints auparavant et des conséquences très concrètes, explique Fabien Sociaux, expert assurance du groupe meilleurtaux.com.
C'est un budget qui est de plus en plus conséquent et qui forcément vient grignoter sur d'autres dépenses. De ce fait, il y a beaucoup de foyers qui peuvent se poser la question de revoir à la baisse leurs garanties, voire de ne plus s'assurer du tout. C'est des comportements qu'on voit déjà se produire sur un petit peu toutes les populations aujourd'hui, mais qui risquent de s'accentuer pour les seniors avec des tarifs qui sont historiquement hauts.
À mesure que les prix augmentent, les écarts se creusent entre départements. Près de 500 euros, par exemple, entre le Val-de-Marne et le Morbihan. La semaine dernière, le ministre de la Santé, Olivier Véran, a une nouvelle fois appelé les complémentaires santé à ne pas augmenter davantage leurs tarifs.
Élise Dangean, un sniper dans le quartier de la Duchère à Lyon. Hier soir, à deux reprises, des policiers ont reçu des rafales de tir. L'enquête devra déterminer le nombre de tireurs. Trois équipages de la BAC qui intervenaient sur un point de deal ont été visés. Le raid a dû venir en renfort. Aucun blessé. Mais le préfet de la région Auvergne-Rhône-Alpes déplore un acte extrêmement grave en lien avec des actions qui ont eu lieu ces derniers jours pour, je cite, pilonner les lieux de deal. Elle avait reçu 11 coups de couteau avant d'être partiellement carbonisée. Le procès des meurtriers présumés de Mireille Knoll s'ouvre aujourd'hui devant la cour d'assises de Paris. En 2018, son assassinat avait ému tout le pays. Mireille Knoll avait 85 ans, elle était juive. Les deux suspects qui comparaissent jusqu'à fin novembre sont d'ailleurs accusés de meurtre à caractère antisémite, Gladys Laffitte.
Ah oui, deux hommes de 25 et 31 ans. Ce dernier est le fils d'une voisine de Mireille Knoll qu'elle connaissait depuis ses 8 ans, Yassine Mihoub. Selon son co-accusé, il reprochait aux Juifs d'être blindés, je cite, « au départ, ils auraient voulu voler l'octogénaire ». L'enquête n'a pas permis de savoir lequel des deux avait tué la victime. Chacun se renvoie la responsabilité des coups de couteau et des départs de feu dans l'appartement. Mais pour l'avocat des fils de Mireille Knoll, Gilles-William Golnadel, Yassine Mihoub dominait son complice.
Il est décrit comme un menteur patenté, il a un casier judiciaire long comme un jour sans pain, c'est un antisémite patenté. Sur les murs de sa cellule, il écrit « Vive les frères Kouachi et Koulibaly ». Les deux se sont parfaitement bien trouvés, mais je pense que dans la hiérarchie de l'horreur, l'un dépasse l'autre.
Pour les juges d'instruction, les deux hommes ont agi en coaction. Et une troisième personne est aussi jugée, la mère de Yassine Mihoub. Elle est accusée d'avoir nettoyé l'arme du crime et jeté notamment le téléphone portable de Mireille Knoll juste après les faits.
Gladys Laffitte du service police-justice d'Europe 1.
Un appel à témoins après l'abandon d'un enfant d'environ un an vendredi sur le quai du RERC. Ça s'est passé à Juvigny-sur-Orge dans l'Essonne.
Sa mère l'a confié à un inconnu sur le quai, puis elle est remontée dans le train juste avant la fermeture des portes. Femme d'origine africaine qui mesure environ 1m65, elle portait alors un jogging noir à motif blanc ainsi qu'une casquette noire. La moindre information est à transmettre à la police de Juvigny-sur-Orge.
Europe 1, 8h05. Marine Le Pen, enquête de crédibilité sur la scène internationale. Un mois après Éric Zemmour et Marion Maréchal, la candidate du Rassemblement National rencontre aujourd'hui le Premier ministre hongrois.
Oui, Viktor Orban doit la recevoir aujourd'hui, effectivement. Mais Marine Le Pen est à Budapest depuis dimanche soir. Hier, elle a enchaîné les visites privées. Un secret bien gardé, Louis de Raguenel. Vous suivez donc ce séjour hongrois et vous avez eu accès à quelques indiscrétions.
Eh bien, après un accueil sur le tarmac de Budapest par la propre protection personnelle de Viktor Orban, digne d'un chef d'État, Marine Le Pen est allée visiter la basilique Saint-Étienne pendant que les grandes orgues jouaient Bach à plein tuyau. Dans ce lieu propice à la prière, visiblement émue, elle s'est recueillie et a même allumé un cierge pour la France, tout un symbole. À l'heure du déjeuner, au New York Café de Budapest, un orchestre lui a fait la surprise de jouer « La vie en rose » d'Edith Piaf, ainsi que la musique du film « Le professionnel ». La journée d'hier s'est terminée par un moment de recueillement devant le mémorial des chaussures au bord du Danube, dédié aux victimes juives de la Shoah. Autant dire que Marine Le Pen a tout fait pour que sa rencontre d'aujourd'hui, en fin de matinée, suivie d'un déjeuner avec Viktor Orban, se passe au mieux. Surtout que c'est la première fois qu'elle rencontre le Premier ministre hongrois. L'enjeu de crédibilité est immense pour Marine Le Pen, seulement quelques semaines après la visite d'Éric Zemmour, son rival, un voyage qui avait été très médiatisé.
Louis de Ragnel, chef du service politique d'Europe 1.
Au Mali, la France, de plus en plus poussée vers la sortie au bénéfice des mercenaires russes de Wagner. Europe 1 vous en parle depuis plus d'un mois.
Et ce groupe privé proche du Kremlin place ses pions dans le pays depuis plusieurs mois avec la bénédiction sous-jacente de Vladimir Poutine. La France a déjà prévenu que la présence de ses paramilitaires n'était pas compatible avec le soutien international dans la lutte contre le terrorisme. Mais le gouvernement malien semble avoir fait son choix, Nicolas Tonnef, puisque Wagner prend ses quartiers dans la capitale Bamako.
Oui, et d'après nos informations, la Russie a déjà livré 4 hélicoptères de transport à Bamako depuis ce début octobre. Jusqu'à 1000 membres de Wagner seraient prévus, un effectif si important qu'une campagne de recrutement a lieu en Russie pour des interprètes en langue française, des démineurs, des opérateurs de drones, des mécaniciens. Salaire prévu jusqu'à 1800 euros par mois, beaucoup plus que le salaire moyen en Russie dans le protocole signé entre les deux parties, qui n'est pas encore un accord. Wagner aura accès à 3 mines, dont 2 d'or, une possible mainmise donc sur les ressources du Mali pour ralentir la société. La France espère que la Cour pénale internationale se saisira des exactions de Wagner au Mozambique et en Centrafrique. En ce qui concerne les discussions, cette fois avec les djihadistes, c'est l'importance donnée à Amadou Koufa et à Yadak Gali, à la fois négociateur et terroriste, qui irritent Paris. Les deux hommes poursuivent en effet leur stratégie de harcèlement contre la France et ses alliés, à tel point que les services français s'interrogent sur la nécessité de laisser continuer les discussions avec ces hommes.
Nicolas Tonnef.
Un retour en France où la crise du Covid n'est pas terminée. On a passé ces 3 derniers jours la barre des 5000 nouveaux cas par jour.
Les hospitalisations en soins critiques sont en hausse de 12% par rapport à la semaine dernière. Taux d'incidence 53 cas pour 100 000 habitants.
Le pass sanitaire jusqu'au 31 juillet 2022. Une hérésie, estiment les sénateurs.
L'Assemblée nationale l'a pourtant voté jeudi dernier, mais hier, le rapporteur du texte, le sénateur LR de la Manche, Philippe Bas, a déposé une série d'amendements. Il entend sortir de l'état d'urgence sanitaire au 28 février, soit 5 mois plus tôt, et faire retirer la possibilité pour les chefs d'établissement d'avoir accès au statut vaccinal des élèves.
Enfin, Europe 1 vous en parle depuis ce matin. Il y a du travail en France, mais on manque de salariés. 10 000 postes sont à pourvoir dans les salons de coiffure.
Les patrons de salons ont du mal à trouver preneurs pourtant. Alors pour attirer les candidats, certains se remettent en question et repensent leurs offres en modifiant par exemple leur jour d'ouverture. C'est le cas à Strasbourg, reportage de Mélina Fachin, correspondante d'Europe 1.
C'est surtout la nuque qui est un petit peu longue.
Super. C'est inhabituel de voir un salon de coiffure ouvert le lundi. Et en plus, celui de John Paul est plein. En contrepartie, depuis la fin du premier confinement, il ferme les samedis pour que ses employés profitent pleinement de leur week-end. Et ça fonctionne.
En France, il y a 10 000 postes à pourvoir. Pourquoi ? Parce que tout simplement, c'est un métier qui est quand même très difficile. On est debout, on n'a pas de week-end, on n'a rien. On cherchait, on a des collègues qui cherchent depuis un an, qui n'ont pas une seule candidature. À partir du moment où on a fermé le samedi, on a eu des candidatures spontanées, on a eu le choix, et effectivement, on a fait une embauche.
Laetitia, qui a rejoint l'équipe en mai dernier.
J'ai fait une candidature spontanée chez John Paul, parce que justement, j'ai vu qu'il était fermé le samedi. Donc là, je peux encore plus me consacrer voilà, à ma famille, à mon enfant, donc c'est vraiment top de ce côté-là.
Et ces nouveaux horaires semblent tout à fait convenir aux clientes, comme Sylvie.
Ça m'arrange bien, je travaille le samedi, c'est bien pour nous, c'est bien pour eux.
Et en plus, ça rapporte, en un peu plus d'un an, le chiffre d'affaires de John Paul a augmenté de 10%. Strasbourg, Mélina Fachin, Europe 1.
Et on termine avec une autre bonne nouvelle pour les automobilistes de la région parisienne. L'A13 a rouvert hier soir après 26 heures de fermeture entre Paris et Saint-Cloud. On s'en souvient, des matériaux avaient été volés. Ça roule donc, mais soyez prudents sur la route ce matin.
Merci à vous Fanny Marceau. Dans un instant sur Europe 1, l'invité d'Europe Matin au micro de Sonia Mabrouk, le porte-parole du gouvernement, Gabriel Attal.